Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. C'est le temps des alliances et des mésalliances. Selon les résultats définitifs des législatives irakiennes, Moqtada al-Sadr et son allié communiste ont remporté le scrutin. L'Iran est à la manœuvre et il est hors de question de pactiser avec le prédicateur nationaliste. En RDC, le virus Ebola a atteint une zone urbaine et peuplé la ville de Mandaka, 9e épidémie de fièvre hémorragique dans le pays. Également au sommaire, les mauvaises notes du gouvernement français en matière de réduction des dépenses publiques selon la Cour des comptes, la conquête spatiale chinoise cap sur la Lune en 2030, reportage de Dominique André. Et puis le partage des richesses dans les entreprises, c'est le sujet de la bulle économique présentée ce samedi par Marie Viennot. Son père fut l'un des plus hauts dignitaires chiites que Saddam Hussein a méthodiquement éliminé. À la chute du dictateur, il recevra une éducation religieuse en accéléré, puis fera des milices du père l'armée du Mahdi, le premier imam sacré, tout en investissant le champ politique. Moqtada al-Sadr, allié au Parti communiste, a remporté les législatives du 12 mai dernier. Il devance l'alliance de la conquête d'Adi al-Amiri, un chef de milice soutenu par l'Iran qui a joué un rôle déterminant dans le combat contre l'organisation État islamique. En troisième position, l'on trouve le premier ministre sortant, Haider al-Abadi, pas assez distancé pour ne plus être un recours. Bonjour Sarah Binquet.
Bonjour.
Sarah, retraçons d'abord à grands traits le parcours de Moqtada al-Sadr.
Oui, un portrait en forme de turban noir, celui des descendants du prophète que porte toujours Moqtada al-Sadr. Le leader chiite n'a que 25 ans quand son père est tué. Un autre de ses parents, réformateur de l'islam chiite, avait déjà été exécuté en 1980 par Saddam Hussein. Moqtada al-Sadr, aujourd'hui âgé de 44 ans, est donc depuis près de 20 ans à la tête du courant sadriste, un courant anticonfessionnel et nationaliste, toujours prêt à se réinventer. En effet, en 2003, il s'oppose d'abord à l'intervention américaine, prend la tête de l'insurrection chiite avec sa milice, l'armée du Mahdi, milice dissoute puis reconstituée en 2014 sous le nom des Brigades de la Paix. Moqtada al-Sadr, alors distant face aux milices chiites pro-iraniennes engagées dans la lutte contre l'État islamique. Mais c'est son dernier choix, celui d'un discours anticorruption qui paye aujourd'hui. En effet, depuis 3 ans, les militants sadristes sont présents chaque semaine place Tahrir pour demander des réformes. C'est là, au cœur de Bagdad, que l'alliance avec les communistes serait née.
Et Sarah, c'est le temps, on le disait, des négociations. L'Iran est à la manœuvre. Téhéran n'a pas l'intention de délaisser l'échiquier politique irakien.
Et oui, avec plus de 5000 candidats à ces législatives et une abstention à 44%, aucune des 3 forces arrivées en tête n'a de majorité. Il faut donc négocier. 2 forces étrangères manœuvrent pour contrer Moqtada al-Sadr. L'Iran, dont les alliés politiques irakiens sont au pouvoir depuis le renversement du régime de Saddam Hussein, et les États-Unis. Alors l'Iran a déjà dépêché à Bagdad Qassem Soleimani, le chef des brigades Al-Quds. Téhéran soutient notamment la liste arrivée deuxième, celle des pro-Ash al-Shaabi, ces groupes paramilitaires financés par Téhéran qui ont aidé à chasser le Hid d'Irak. Reste que pour gouverner, il va falloir convaincre les sunnites, environ 35% de la population, dont les 2 principales listes comptent 35 députés élus. Les Kurdes également, avec une 50aine de sièges, sont sollicités.
Merci à vous, Sarah Maquet. L'Iran, soucieuse de ses appuis irakiens, qui plus est après la fragilisation par Washington de l'accord nucléaire. Au terme d'entretien avec le commissaire européen à l'énergie à Téhéran, le chef du nucléaire iranien salue les efforts de Bruxelles. Efforts pour consolider les échanges commerciaux préexistants et menacés par l'administration Trump. Donald Trump et les fragilités domestiques des États-Unis au lendemain d'un nouveau carnage dans un établissement scolaire, le 22e depuis le début de l'année. Quelques informations nous parviennent sur le profil du tueur. Selon le New York Times, le jeune homme âgé de 17 ans en sympathie avec les milieux suprémacistes a utilisé les armes de son père, 10 morts et 10 blessés dans un lycée de Santa Fe, Texas. La ville afghane de Jalalabad, de nouveau endeuillée par un attentat, perpétré cette fois dans une enceinte sportive de cette municipalité de l'est du pays, 8 morts et 43 blessés. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Le ministère de la Santé a activé hier son plan de riposte alors que le virus a touché la zone urbaine de Mandaka, une ville peuplée de près de 1,2 million d'habitants. La nouvelle épidémie a déjà fait 25 morts selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé qui ce matin considère que le risque pour la santé publique est très élevé. C'est surtout, Elia Bergel, la 9e épidémie d'Ebola en RDC.
La transmission du virus Ebola est extrêmement simple. Elle se fait via les liquides biologiques d'une personne malade, par exemple le sperme, le sang ou la salive. Et dans certains pays d'Afrique, de nombreux rites funéraires impliquent un contact physique avec les personnes décédées. Par ailleurs, la forte consommation de viande de brousse aurait été un vecteur de propagation de la maladie en Guinée lors de l'épidémie de 2014-2016, par exemple. Les chauves-souris frugivores sont souvent considérées comme étant le réservoir naturel d'Ebola, mais de nombreux autres animaux du quotidien pourraient être des vecteurs de la maladie, les antilopes et les chimpanzés, entre autres, qui sont chassés et consommés. Et puis une véritable psychose s'est installée autour du virus Ebola, particulièrement virulent. Dans certaines zones pauvres et reculées, les habitants préfèrent parfois s'en remettre à l'église ou à des traitements inefficaces pour se soigner. C'est après une rivière justement située en République démocratique du Congo qu'a été nommée le virus Ebola, découvert dans la ville voisine de Yamboukou en 1976, l'année de la première épidémie qui tuera 280 personnes. Depuis, les épidémies se sont multipliées, 11 300 morts entre 2014 et 2016 en Afrique de l'Ouest. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement congolais comptent sur des vaccins testés avec succès en Guinée pour éviter un scénario similaire.
Il est 12h36, vous écoutez le journal de France Culture. C'est un rapport sur le budget de l'État dont l'État se serait bien passé. La Cour des comptes en est l'auteur. Il était question de le rendre public, ce rapport, mercredi prochain. Mais nos confrères du journal Le Monde ont pu mettre la main dessus. Et les magistrats de la Cour ne sont pas tendres avec l'État gestionnaire en matière de baisse des dépenses publiques. Bonjour David Ravier.
Bonjour Mathieu.
David, Emmanuel Macron ne fait pas mieux que son prédécesseur.
En effet, si l'année dernière le déficit public du pays a baissé de 1,4 milliard d'euros, c'est grâce à une forte hausse des recettes de l'État, alors que dans le même temps, les dépenses, elles, ont beaucoup augmenté. Dans son rapport, la Cour des comptes pointe la hausse de 4,8% des dépenses des ministères faites par le nouveau gouvernement, mais également les fameux éléments d'insincérité du dernier budget du mandat de François Hollande, qui aurait été sous-budgété selon les sages de la rue Cambon. Au niveau des recettes, l'État a pu s'appuyer sur la croissance du PIB tricolore qui s'est établi à 2,3% l'année dernière. Cela a eu pour effet de doper les revenus de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, ce qui a permis à l'État d'engranger plus d'argent et donc à son budget de faire illusion. Cela dit, si le pays s'en sort bien pour l'instant, c'est aussi grâce aux taux d'intérêt sur la dette qui sont actuellement très bas, mais rien ne dit que cela est amené à perdurer, parce que si jamais les taux d'intérêt venaient à augmenter ne serait-ce que d'1%, la dette publique ferait un bond de 2,1 milliards d'euros la première année et de près de 20 milliards au bout de 10 ans. Enfin, selon la Cour des comptes, l'État ne fait pas assez d'efforts pour réduire ses dépenses et revenir à l'équilibre. Le rapport estime que la gestion de l'exécutif manque de transparence et que pour arriver aux objectifs budgétaires qu'il s'est fixés, l'État doit mieux détailler les méthodes de prévision de ses recettes fiscales à venir.
Merci de vos explications, David Ravier. Objectif Lune à l'horizon 2030 pour la Chine, moyennant bien des expérimentations. Une expérience de confinement vient d'ailleurs d'être menée dans une université de Pékin durant 370 jours. Des étudiants volontaires se sont succédés dans un laboratoire spatial fermé. Les étudiants sont sortis cette semaine du module Les bras chargés de tomates et de salades qu'ils ont cultivées et présentées aux experts. Et à Radio France, l'un des rares médias étrangers à avoir eu l'autorisation d'assister à l'issue de cette expérience menée sous haute surveillance. C'est un reportage à Pékin de Dominique André, traduction Shenyang Hu.
Quatre étudiants sortent du Weigong 1 qui est installé au rez-de-chaussée de l'université de Beirang. Masque sur le visage, tous vêtus d'un polo bleu clair, les deux filles et les deux garçons sont applaudis par les VIP chinoises, des experts du programme de conquête de l'espace. Yi Zhihao prépare un doctorat en biologie. Il vient de passer 110 jours dans ce laboratoire spatial. C'est son deuxième séjour en un an, ce qui lui a permis de s'adapter.
Le premier jour où les vitres ont été occultées, ça a stressé tout le monde. On ne pouvait plus voir à l'extérieur, on avait l'impression d'être isolé sur une île. On a commencé à communiquer avec l'extérieur, ce qui a fait disparaître rapidement cette sensation d'être seul au monde. On vit bien à l'intérieur du laboratoire spatial. L'air n'est pas pollué comme dehors, il n'y a presque pas de microparticules. On fait du sport et on a des tâches collectives à faire.
Le palais lunaire est composé de modules blancs reliés entre eux. Deux sont réservés à la culture des légumes et à l'élevage des animaux comme des vers qui serviront de protéines dans l'alimentation de l'équipage. Chaque étudiant est chargé d'une recherche scientifique. Ru Jingfei est l'une des deux filles volontaires engagées dans ce programme qui aura duré en tout 370 jours.
J'ai fait des prélèvements de microbes dans l'air, j'ai géré aussi la santé des bénévoles. Au début, on souffre du bruit des machines, mais on s'habitue. Et tous les matins, on prenait la tension artérielle, la température du corps et on se pesait.
La vie dans le laboratoire spatial est suivie depuis une salle de contrôle avec écran où nous avons pu entrer. Cet étudiant nous montre la pièce où sont stockés et traités les déchets. déchets et le compost fabriqué, explique le jeune chercheur, avec les déchets de l'alimentation et les excréments des quatre étudiants. Les données sont ensuite analysées par les professeurs, dont Fan Yubo, microbiologiste à l'université.
L'intérêt pour la Chine est sur le plan scientifique. Il est impossible de récupérer en milieu naturel des données sur les interactions entre les humains, les végétaux, les animaux et les micro-organismes. Pour cela, il faut un environnement fermé, contrôlable.
La Chine investit des milliards d'euros dans son programme spatial sous le contrôle de l'armée. L'objectif est de rattraper l'Europe et les États-Unis dans la conquête de l'espace.
La Russie a présenté ce samedi la première centrale nucléaire flottante au monde lors d'une cérémonie pour son amarrage à Mourmansk, port du Grand Nord, un projet qui doit permettre d'alimenter des régions reculées mais qui inquiète considérablement les organisations écologistes.
La bulle économique, Marie Viennot.
La bulle économique revient ce samedi, comme convenu, sur le débat sur le partage des richesses dans les entreprises. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour. En publiant un rapport sur la répartition des bénéfices des sociétés du CAC 40, l'ONG Oxfam a déclenché un tonnerre de critiques. Au stade du constat, pourtant, il n'y a pas de polémique à avoir. Les dividendes versés aux actionnaires en 2017 en France ont été, pour le CAC 40, de 50,9 milliards d'euros. Ce n'est pas une estimation d'Oxfam, c'est une donnée factuelle, mesurée par un institut de recherche, le Vernimen. Et ce chiffre a déjà été publié en janvier par divers journaux, dont les Échos. Dire que les dividendes s'envolent sur les 10 dernières années n'est pas non plus contestable. Les sociétés de gestion qui publient des chiffres pour les investisseurs le disent également. Le Global Dividend Index note que depuis 2009, les dividendes ont augmenté de 3/4 et qu'en 2017, des records ont été battus dans 11 des 41 pays qui composent son index. Le Financial Times parle même de gueule de bois des dividendes à prévoir en 2018, tellement l'année 2017 fut exceptionnelle.
Elle est saoule, saoule, saoule.
Sur les chiffres, donc, rien à dire. Ce qui a froissé la plupart des commentateurs, du ministre des Finances à Pierre Gattaz, en passant par tous les éditorialistes économiques, c'est le titre du rapport d'Oxfam. CAC 40, des profits sans partage. C'est faux, ont-ils expliqué, l'entreprise partage. La preuve, les salaires sont plutôt en augmentation en France, ce qui est vrai. Ils représentent même 60% de la valeur ajoutée d'une entreprise, alors que les associés ou actionnaires, eux, n'ont que 10%, ce qui est vrai aussi. Et c'est là qu'il faut dire attention, alerte, dérapage. Car on ne parle plus de la même chose. Oxfam pose la question de la répartition des bénéfices et ses détracteurs, eux, parlent de la répartition de ce qui permet à l'entreprise de fonctionner. D'un côté, on parle de l'aval, le profit, qu'est-ce qu'on en fait. De l'autre, on parle de l'amont, le capital, le travail et la façon dont les entreprises ont besoin des deux pour leur activité. Pire qu'un dialogue de sourds, ce faux débat est un étouffoir. Car il empêche de faire émerger la vraie question. La vraie question, c'est sur 100 de profit, les entreprises du CAC 40 consacrent actuellement 67 à l'actionnaire, 27 à l'investissement et 6 aux salariés. Pour leur intéressement, je précise, cette répartition est-elle une bonne chose ou pas ? Sous-entendu, donner autant et de plus en plus aux actionnaires, est-ce néfaste pour l'entreprise, les salariés et plus largement la société ? Pour l'entreprise, les économistes reconnaissent que 27% de réinvestissement, c'est peu, mais ce n'est pas de la faute des actionnaires, disent-ils, c'est parce que les entreprises ne savent pas dans quoi investir, ce qui n'est pas très rassurant. Pour les salariés, le gouvernement a une réponse qu'il compte mettre en œuvre dans une prochaine loi en favorisant l'actionnariat salarié et la participation. Rien de neuf donc et un piège potentiel pour les salariés puisque cela revient en gros à faire grimper la part variable de leur salaire. Quand l'action de mon entreprise a perdu 30% de sa valeur, j'ai perdu 30% de mon épargne, raconte un de ces heureux salariés actionnaires. Et la société est-elle impactée par cette répartition des profits ? Oui, via les inégalités qui s'accroissent, il y a de multiples études là-dessus. Oui encore, parce que sur ces dividendes, il y a des impôts qui sont, eux, plutôt en baisse. Et oui, enfin, d'une façon bien plus pernicieuse et violente. Je vous donne un indice. Qui est la championne du monde du versement des dividendes ? Qui ? Non, ce n'est pas la France, c'est la finance. Et bientôt, on fêtera les 10 ans de la crise financière. Pas besoin de vous faire un film.
Venez tous, venez voir, gueule de bois, tombe la femme et voilà. Elle tombe à chaque fois.
Ainsi se referme la bulle économique signée Marie Vienno. Je vais y arriver. Luxe de détails livré en boucle sur les chaînes de télévision britanniques, entre autres en ce jour de noces royales, celle de Meghan Markle et du prince Harry, noces célébrées dans quelques minutes, donc à 13h française précise, dans la chapelle Saint-Georges de Londres. Franc beau temps sur une très grande partie du pays, quelques nuages dans l'après-midi et quelques orages sur les reliefs. Cette édition a été préparée avec Emmanuel Faucillon, à la technique Alex Dang.